Pavillon Nomade, le direct.
Là où la psychiatrie rencontre le son, où l'amitié rencontre la bienveillance, où l'entraide est un mot d'ordre, vous êtes bien sur votre radio, notre radio Pavillon Nomade. Je vous souhaite le bonjour et bienvenue. Pour nous accompagner aujourd'hui dans ce live, nous avons Evan, Mia, Karine, Patricia, Étienne, Eliane, Anne, Christelle, Capucine, Christine et votre cher Elvio. Voilà, alors bienvenue à toutes et tous. Nous allons commencer donc, j'ai oublié de présenter en fait, alors l'homme sans qui aucune diffusion serait possible, sans qui nous ne pourrions surfer sur les mystérieuses voies du web, notre maître à la technique, Pascal. Bienvenue Pascal. Alors voilà, et bienvenue Capucine. Donc, vous êtes actuellement en résidence ici au quartier culturel.
C'est ça.
Donc, vous animez donc des ateliers.
C'est ça.
Vous êtes en binôme avec Marie-Catherine, que nous allons rencontrer la semaine prochaine.
C'est ça.
Voilà, voilà. Donc, on va s'intéresser un petit peu à vous. Alors, écoutez, parlez-nous de vous. Quel fut votre cursus d'étudiante?
Alors, moi, j'ai fait mon bac. Du coup, je suis française, je précise peut-être. J'ai fait mon bac normal, général. Et en fait, à la fin, j'avais fait un bac scientifique à la base. Et j'étais pas du tout dans mon élément. Les chiffres, c'était pas du tout pour moi. Alors, comme une évidence, je me suis mis dans la tête de faire une prépa. Une prépa au concours des Beaux-Arts. En fait, en France, les écoles des Beaux-Arts, on peut rentrer via un concours, qu'on réussit ou pas. Et pour se préparer au protocole, à comment faire des dossiers, comment se présenter à une école et comment tenir face à un jury, on fait une petite année, parce que ce n'est pas vraiment une année scolaire entière, ça se finit vers le printemps, de prépa. Donc, on travaille avec des professeurs pour avoir un peu plus d'assurance pour parler de notre travail et avoir quelque chose qui tienne un peu plus la route au moment des concours.
Et quel a été le moment déclencheur, le moment créneau en fait de votre décision de faire une carrière artistique?
Eh ben, c'est justement quand au début de l'année de terminale, du coup avant le baccalauréat, je me suis dit que je voulais pas continuer à apprendre avec ce système-là. Je voulais expérimenter des choses différentes, avoir un peu plus de satisfaction, de voir un petit peu ce que je construis en même temps que je le fais. Et je trouvais que justement les filières artistiques apportaient beaucoup plus ça, et aussi le temps d'avoir des temps d'échange, d'être vraiment dans un rapport à l'autre beaucoup plus proche, je trouve, et d'avoir une matérialité à tout ça.
Et comment définir auriez-vous votre univers artistique?
J'aime beaucoup travailler autour de l'autre. J'aime bien dire que je récolte des voix. Donc je récolte des histoires, même des briefs de mots de personnes, et que j'essaye de remettre en avant via ma sensibilité. Et je travaille aussi beaucoup autour de la marge. Et justement, j'essaye de remettre un petit peu en avant, en tout cas sur une scène d'art contemporain, tous ces récits qui, pour moi, sont des vraies mines d'or.
Eliane,
j'ai une question à vous poser, Capucine.
Bien sûr.
Pouvez-vous nous parler de votre processus de création? Croquis, intuition, travail préparatoire?
Alors, ça va être assez différent selon mes projets, mais j'ai toujours une phase de récolte où, justement, je vais venir à la rencontre des gens. Je vais avoir des temps d'échange et je vais récolter un petit peu des phrases, des briefs de discussion, ou alors vraiment commencer d'abord toute seule dans un atelier et commencer à produire des formes. Et il y a toujours un moment où je dois prendre un petit peu de recul et trouver un petit peu une autre gymnastique, que ce soit créer de la matière, ou alors plutôt avoir un moment de réflexion pardon, où je vais me mettre un petit peu en retrait et me dire, tiens, là, j'ai cette matière, comment je peux les imbriquer ensemble ou pas du tout, comment je peux les opposer. Enfin, c'est des petits temps comme ça où ça va être des moments clés selon le projet.
Vous avez une matière particulière. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Qu'est-ce que vous faites?
Ça dépend. En fait, je me centre plutôt autour d'une thématique. Donc, du coup, la marge, la question de comment mettre en avant une voix, etc. Sinon, le médium, donc le matériel que j'utilise, j'essaye de le varier le plus possible. Mais je reste quand même vachement autour de l'image, soit dessinée, soit en prise de vue. L'écriture, comme une redigestion un petit peu de ces voix. Et surtout... des formes éditoriales ou de l'animation, de la vidéo. J'essaye d'avoir le champ le plus large possible pour m'amuser. Et voilà.
Merci.
Anne.
Alors, moi, j'aimerais vous poser comme question, Capucine. Est-ce que parmi vos œuvres, y a-t-il une qui a une signification plus particulière pour vous?
Alors, je suis encore en étude, donc mes œuvres sont encore un peu au statut d'expérimentation. Je pense que d'ici que je sois professionnelle, j'aurai peut-être un peu plus de projets plus conséquents. Mais il y a un travail qui m'a beaucoup touchée et qui fait écho un petit peu aussi à la résidence que je fais ici. Parce que j'ai déjà travaillé ici plutôt dans les soins l'été. Et j'avais fait des séries de rencontres de personnes âgées, parce que j'avais travaillé dans l'unité du Rocher, qui m'avait inspiré toute une série de poèmes que j'ai remise après en lien avec des illustrations dans une édition autour de l'errance physique et mentale, et où justement un artiste ici avait beaucoup travaillé autour de ça en concevant des bancs. Il me semble que c'est Romain Grosjean. Il a fait un super cahier de résidence, qui s'appelle Kiss Kiss Bamban, qui est vraiment merveilleux, et je trouvais que c'était très inspirant.
Et quelle émotion, en fait, occupe comme place, en fait, dans votre création? Les émotions, en fait, la tristesse, la joie, comment, en fait, créez-vous avec les émotions?
Eh ben, ça part de là, justement, d'une sensibilité, quelque chose qui me touche, soit via le regard de quelqu'un d'autre, soit via mon propre regard. Et l'intérêt, c'est de justement trouver un moyen de communiquer, de symboliser, en tout cas de donner les grandes lignes de mes intentions. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est de trouver le juste équilibre, qui est pas toujours évident, et de confronter justement ça à un regard qui n'est pas le mien, et c'est trop chouette.
J'ai Christelle là qui aimerait intervenir.
Bien sûr. Moi j'aurais une question, Capucine. Comment dire, y a-t-il un rêve artistique que vous aimeriez accomplir?
Alors, c'est plus qu'un rêve, c'est vraiment là où je voudrais me professionnaliser. J'aimerais bien faire des ateliers comme ça le plus possible, pour être toujours continuellement dans l'échange. En fait, je veux pas m'enfermer dans un atelier et essayer d'imaginer ce que les gens peuvent ressentir pour comme sujet de mon travail. Je veux vraiment aller dans le concret et essayer de représenter au mieux les gens qui m'accordent leur récit.
Et comment l'environnement dans lequel vous vivez ici au quartier culturel, qui est un univers dans un environnement psychiatrique, en fait, vous influence-t-il?
C'est un peu particulier parce que j'ai une famille qui travaille beaucoup dans ce milieu-là. Donc, de loin ou de près, on a toujours eu un peu des discussions autour de cette notion-là, de la psychiatrie, du soin, de comment être dans le respect de l'autre, comment l'écouter. Et je crois que ça m'a toujours plus ou moins habité, ces questions-là. Et c'est vraiment, pour moi, une chance de pouvoir être justement imprégné de ce milieu-là.
Et... donc, votre expérience, comment est votre expérience que vous vivez actuellement au quartier culturel?
Ok. c'est vraiment ce que j'attendais. C'est rempli d'humanité. Ouais, c'est très riche.
Eliane?
J'ai encore une petite question, bien Capucine. J'arrive. J'en suis où?
Prenez votre temps.
Comment avez-vous entendu parler du quartier culturel?
Eh bien, justement, c'est quand j'ai commencé à travailler ici l'été, plutôt dans les unités ou dans le jardin avant d'être majeure. À travers des discussions justement avec des gens de ma famille qui travaillent ici, je me suis rendu compte que ce quartier culturel existait et que finalement une institution comme ça de soins était complètement ouverte au monde artistique et au contraire, il pouvait y avoir un espèce d'échange de bons procédés où tout le monde trouve sa juste place et tout le monde en tire les bénéfices. Donc je trouve ça super.
Alors Anne ?
Et Capucine, une journée type dans votre atelier, ça ressemble à quoi ?
Comme je suis encore à l'école, ça reste assez souple. J'ai pas vraiment d'atelier qui m'appartient, mais c'est un petit peu.
Des journées peut-être.
Ok, oui, des journées. C'est ça, ouais. En général, comme je suis dans les dernières années de mon cursus, j'ai de moins en moins de cours. Et justement, c'est un peu moi qui viens rythmer mes projets et mes journées. Et du coup, c'est un petit peu selon comment j'avance dans mon travail. Ça me donne aussi justement cette liberté-là que je recherchais dans mes études, de pouvoir me dire, tiens, cette matinée, je vais prendre juste des photos parce que j'en ai besoin et que j'en ai envie. C'est ça qui est chouette, c'est que je peux avoir un agenda souple, à part quelques dates butoirs. Et c'est vraiment selon l'envie du moment et le projet qui m'accompagne.
Il y avait Christelle aussi qui avait une question à vous poser.
Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais te poser une question, Capucine.
Bien sûr.
Quel est ton projet d'avenir ?
Alors là, je travaille sur mon mémoire, parce que l'année prochaine, c'est ma dernière année dans mon école. Et donc, j'ai mon projet de diplôme. Et c'est toute une pensée à rendre tangible. Donc, ça passe par les mots, un mémoire, et aussi par les formes, et donc créer un ensemble cohérent qui évoque tout le cheminement de ma pensée et qui soit aussi une expérimentation qui, contemporaine de mes idées.
Eliane.
Est-ce que vos œuvres, donc pas les œuvres d'entraide, etc., dont vous avez parlé, mais les œuvres que vous créez, elles ont un nom?
Ça dépend lesquelles. Celles que je nomme pas, pour moi, c'est celles qui font partie plus d'un ensemble plutôt qu'une identité propre. En général, les dessins, je les nomme pas, parce que pour moi, c'est une ambiance qui se forme, une image. Mais quand je fais des projets éditoriaux, donc sous format de livret, de flyer, etc., je donne toujours un nom, parce que pour moi, le nom, c'est la première porte d'entrée. Vers le projet, en fait. C'est la première chose sur laquelle on s'arrête.
J'ai une question. Pouvez-vous nous citer les artistes qui vous ont influencé et qui vous influencent encore ?
Bien sûr. D'abord, j'aimerais citer Cindy Sherman, une grande photographe américaine des années un peu 80-90, qui a beaucoup travaillé sur le féminisme et notamment la vie quotidienne des femmes, plus ou moins mise sous silence, et je trouve ces photographies à l'argentique en noir et blanc magnifiques. Plus récente, il y a Valérie Mregen, qui est une artiste locale de Metz, là où je fais mes études. Et en fait, elle travaille beaucoup avec la photo d'archives et le récit collectif. Et elle a fait tout un projet qui s'appelle Images Enquête d'Histoire, où elle invitait des gens à venir avec des photos d'archives familiales pour recréer ensemble un grand récit modulable, donc qui pouvait changer de forme et inventer des histoires comme ça tous ensemble.
Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser ? Christelle ?
Alors, je n'aurais pas une question forcément à poser. Mais j'aurais un ressenti par rapport aux ateliers auxquels j'ai participé avec MC et Capucine. Et j'ai trouvé ça vraiment bienveillant. Elles sont toutes les deux très à l'écoute. Elles fournissent tout le matériel qu'il faut, dont on a besoin. Elles sont vraiment professionnelles. Et ça a été vraiment un réel plaisir. J'ai fait 10 jours ici d'hospitalisation et j'ai profité de chaque atelier et c'était vraiment vraiment du plaisir partagé.
On les remercie en tout cas.
Merci beaucoup, Christelle.
Merci, bravo. Voilà, maintenant nous allons écouter une chanson de Jacques Higelin, Champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu tendue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Joufflue, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière d'Orgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait pas bon dans un concert de jurons disant d'un tout pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus fasse grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus. Car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à douter de mêmes.
Mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu.
Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard.
L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Champagne, donc Champagne de Jacques Higelin. Nous allons remercier Capucine. C'était un moment très agréable d'avoir fait votre connaissance et on invite justement tout le monde à venir découvrir ce que vous faites ici au Quartier Culturel. On invite les patients qui nous écoutent à venir justement participer aux ateliers. Je rappelle que les ateliers, c'est à partir de 15h ici à la Buvette. Je ne me trompe pas.
C'est exactement ça. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et bonne fin d'émission.
Je vous remercie. Bon merci après-midi. Beaucoup. Nous allons maintenant, Patricia qui nous a demandé un thème et on va parler de ce thème. Alors Patricia, bonjour. Vous pouvez prendre le micro. Voilà. Donc, vous vouliez parler de la solitude.
Voilà. Alors moi, je travaille beaucoup. Et puis, j'ai perdu mes parents, tout ça. Et puis, j'ai eu toujours l'habitude d'être entourée de personnes. Parce que ma maman, mon papa est décédé avant. Et puis, ma maman, elle habitait chez moi. Et puis là, tout d'un coup, j'ai aussi mon mari qui travaille la nuit. Et moi, je travaille jusqu'à minuit. Or, quand je rentre, je suis souvent seule.
J'imagine, et vous faites quoi comme emploi ?
Alors, je travaille à la poste de Sion, au vidéocodage.
Le vidéocodage, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le vidéocodage, c'est... On ne touche plus les lettres, hein. Ça passe tout sur ordinateur, et puis on fait le A, les recommandés, plein de trucs.
Et vous avez fait votre apprentissage, vous avez toujours travaillé pour la Poste ?
Non, ça fait 21 ans que je travaille pour la Poste. Sinon, je travaillais pour le Nouvelliste aussi. J'ai fait plein de boulot, quoi.
D'accord, pour le Nouvelliste. Qu'est-ce que vous faisiez pour le Nouvelliste ?
Alors, je faisais la tournée de 4h à 8h du matin. Distribuer les Nouvelistes. Puis après, j'ai fait 2 ans dans les rotatives. Je commençais à 10h30 jusqu'à n'importe quelle heure, et quand c'était fini.
Vous avez beaucoup travaillé la nuit, en fait.
Ouais. Ouais.
Et c'est, pour vous, c'était une contrainte de travailler la nuit ?
Ben, pour finir, je suis tellement fatiguée que je ne sais plus où j'en suis. Voilà, c'est ça.
Je comprends. C'est pour ça que vous êtes là pour vous reposer.
Ouais. Et puis voilà quoi, c'est quand je rentre, souvent je suis seule. Puis ces derniers temps, j'ai assez peur d'être seule. C'est venu d'un coup quoi.
Il y a Anne qui aimerait vous poser une question.
Patricia, vous parlez de solitude. Est-ce que vous avez eu ou avez un animal qui peut vous accueillir à chez vous quand vous rentrez du travail ? Un chat,
non.
Un chien ?
Non.
Parfois, ça fait une petite présence. Moi, mon chat, il court dans l'allée pour quand j'arrive.
Oui.
Alors, c'est ça, pas un humain, mais c'est mon chat.
Ouais, c'est mon chat. C'est, le problème, c'est que pour m'occuper. Et puis, si je peux pas m'occuper, alors ça me... Parce que quand je rentre à minuit, j'ai vraiment pas aucune envie d'aller sortir mon chien.
Alors là, je vous comprends totalement. Christine, vous voulez poser une question à Patricia ?
J'aime. Hein, j'ai...
C'est-à-dire que je voulais surtout reprendre ce que tu disais. Moi, j'ai fait 2 mauvaises expériences depuis que ma dernière est partie. On appelle ça le syndrome du nid vide. Ça veut dire la dernière a quitté le nid, j'étais seule dans le nid. On était toujours 5 ou 6 avec des copains et des copines de mes enfants, mes 4 enfants. Et ça, j'ai passé du tout au rien. Et j'ai pas supporté du tout. À la fin, c'était toute la gare de Sion qui zonnait chez moi. J'ai perdu mon bail 1 fois, j'ai perdu mon bail 2e fois. Et je me suis retrouvée ici le 9 décembre de cette année. Et je ne sais pas encore ce que je fous là, parce qu'ils ne m'ont pas encore changé de médication ni rien du tout. Mm-hmm. Mais hier, j'ai fait une bêtise le soir. Aujourd'hui, j'avais tout à coup toute la smala, la hiérarchie qui était là pour me parler d'une nouvelle thérapie. Ils me proposent un truc que j'ai pris il y a 30 ans en arrière et qui ne marchait pas. Donc okay. Je ne suis pas très chaude pour ça. Mais j'ai trouvé étonnant qu'il faut arriver à ce point-là pour que tu sois entendu par les hauts placés.
Il y a Étienne qui aimerait poser une question.
Oui, alors, la solitude, ça peut être bien aussi, des fois. Parce que, par exemple, moi, quand il y a trop de monde, trop de choses, je sais plus où j'en suis. Puis la solitude, des fois, j'aimerais bien être seul, des fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien, des fois. Ouais, des fois, je suis avec encore ma maman, mais des fois, j'aimerais être seul.
On peut comprendre.
J'ai un chat, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes qu'un humain. Puis c'est quelque part, c'est amusant, sauf que des fois, il fait des bêtises, comme il m'a cassé quelque chose.
Ah, oui. Ils aiment bien des fois faire des bêtises et tout.
Et attiré par l'eau qui coule.
Et il y a Eliane là aussi qui voulait vous poser une question.
Comment appelez-vous votre solitude ? La solitude ou la liberté ?
Non, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Alors c'est... Mais je travaille aussi beaucoup et puis c'est une accumulation. Je veux dire, avant, ben, je promenais le chien à ma fille 3 fois par semaine et puis là, ben, on a dû le faire piquer parce qu'il il était vieux. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée sans rien, quoi, à part le boulot.
Et Joël aimerait aussi intervenir.
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, on t'entend bien.
Moi, je pense qu'il y a différentes formes de solitude. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très entouré. J'ai de la famille, j'ai des copains, copines. J'ai voilà, des proches, j'ai tout un tas de soignants autour de moi. Mais il y a des moments où je me sens hyper seule. Mm-hmm. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Et ma foi, il faut l'accepter comme c'est. C'est pas être seul, c'est juste d'être toujours très entouré. Tous les jours, j'ai même mon petit chien, mais de sentir, d'avoir cette impression de solitude en nous.
Et Patricia, ouais. Je voulais vous poser une question, parce que vous avez des passions.
Des
passions.
Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé énormément et puis là, ben, je pense que c'est aussi une fatigue mentale. Mm-hmm. Que je dors pas assez. Voilà.
Christelle.
C'est ça. Alors, j'ai trop accumulé de choses.
Je vous comprends.
Puis quand j'avais ma maman qui habitait chez moi, c'était quelqu'un de très exigeant, très malade. Et quand je rentrais la nuit, ben, il fallait encore être au taquet. Pour
s'occuper d'elle.
Pour s'occuper d'elle.
Il y a Christelle qui aimerait intervenir.
Oui, moi j'aimerais intervenir sur la solitude parce que je la connais bien, je la côtoie, j'en ai fait plus une alliée, une amie qu'autre chose. Et on peut être seul tout en étant accompagné aussi. Hein. La solitude, c'est très vaste comme sujet. Et je dirais que j'aime ma solitude, j'aime être seule. J'ai besoin d'avoir, comme tout le monde, un réseau de personnes autour de moi, des amis, des relations sociales. Je suis une personne très sociable, je pense. La solitude, je l'ai connue dans les chambres fermées et passer 24 heures ou passer 6 mois dans des chambres fermées, c'est très long. Et on devient très patient, en fait, et on apprend la patience. La patience est une vertu. Mais la solitude, je pense qu'on peut en faire quelque chose de magnifique, en fait.
Étienne voulait réagir aussi.
Oui, il y a une certaine liberté qu'on peut avoir. Mais bon, des fois, on aura aussi besoin de partager. Si je me sens seul des fois, parce que j'ai envie de partager des choses avec d'autres. Et puis la communication n'est pas toujours facile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones portables. Et quand j'essaye d'appeler des contacts pour qu'on se voit, pour faire quelque chose, c'est pas facile parce qu'il y a toujours le répondeur. C'est toujours jamais le bon moment. Et puis finalement, si on est, ça me fait penser à une chanson des Silencers là, qui s'appelle Sailor of Dreams. C'est à propos d'un homme qui est prisonnier dans le noir sans contact à Beyrouth. Et puis là, quand on est seul dans sa chambre, on est quelque part, on peut se réfugier dans les rêves. Dans les rêves, et puis ça peut faire du bien aussi.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. On va écouter maintenant un morceau d'un morceau de Slash avec Miles Kennedy. Apparemment, c'est assez nouveau. C'est Anastasia.
le direct.
Nous avons avec nous une jeune demoiselle qui s'appelle Mia. Et Mia, elle voulait réagir justement aussi par rapport à la solitude. Tu peux nous en parler ?
Ben, la solitude, ça peut aussi servir pour que tu sois seul chez toi, pour aussi que tu profites d'être seul. Pour, si tu es un écrivain, tu peux aussi écrire des histoires.
Mmh. Et toi, comment tu t'occupes en fait, Mia ?
Moi, j'écris un peu des histoires et je dessine aussi.
Ouais. C'est tes occupations quand tu as besoin d'être seul ?
Oui.
Et Evan, toi ?
Moi, j'essaye de m'entraîner à lire ou à jouer.
Et t'aimes bien rester seul aussi des fois ?
Pas trop. Parce que moi, ce que j'aime plus, c'est de jouer ensemble, pas jouer seul. Mm-hmm. C'est ça. Je préfère jouer ensemble que jouer seul.
Je comprends. Et Patricia, en fait, je voulais aussi rebondir avec vous. Dans votre être, en fait, avec tout ce que vous avez vécu, avec justement, vous aviez dit que vous êtes occupé de vos parents et tout ça. Qu'est-ce que ça vous provoque au fond de vous-même, en fait, cette solitude ?
Ben, c'est que j'avais pas mal de monde autour de moi, puis là, ben voilà. Il n'y a plus personne, mais nous, on était quand même une famille. Il y avait toujours du monde, quoi. C'est ça.
Vous m'avez dit que vous habitiez Vissigan. Vous avez encore des frères,
j'ai
sœurs.
Une sœur, un frère, des neveux. J'ai deux enfants. Mm-hmm. Non, ils sont chouettes, mes enfants. Mm-hmm. Mais bon, ils ont leur vie aussi.
Oui,
je ne peux pas toujours... Là, avant que je vienne là, ben, c'était l'au secours. J'ai été dormir deux fois chez ma fille, deux fois...
Mais vous vous êtes sentie entourée.
Voilà.
Et je vois que vous avez un chouette tatouage, donc l'Italie. Mm. Est-ce que c'est vos origines ?
Oui.
Ah, de quelle région ?
Naples.
Naples. Ouh. Alors là, c'est les vrais Italiens à Naples.
Ouais.
Hein. et sinon, dans vos voyages, vous avez voyagé partout, pas mal. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Oh là là. Alors, le dernier que j'ai fait, c'est aux Seychelles.
Ah ouais.
L'année passée, Cuba. Sinon, j'ai fait Las Vegas, la Thaïlande, la Turquie, la Jamaïque.
Une vraie globe-trotteuse.
Costa Rica, Honduras, les Bahamas.
Et la Bretagne, vous êtes déjà
non.
Allé ? Jamais.
Panama.
Même pas la Bretagne.
Parce qu'on va... En fait, le prochain sujet... Ça va être la Bretagne, parce qu'en fait, j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont venus de Bretagne et qui ont été d'accord de participer à l'émission radio aujourd'hui. Anne, bonjour.
Bonjour Elvio, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans le Valais.
Voilà. Donc, vous connaissez déjà un peu le Valais, on va dire. Hein ?
Oui, un petit peu. Je vous ai déjà rendu visite il y a quelques années.
Oui, on est d'accord. Hein. Et vous, la Suisse, vous y avez vécu déjà aussi quelques années.
Oui, alors je vous ai fait des infidélités. J'étais du côté de Lausanne.
Oui.
Donc de 97 à 2006.
Ah là là.
Donc en face de la Dandoche, face au plus grand lac d'Europe, qui m'a rendue amoureuse de votre pays.
Oui. Ben, ouais. Vous savez que moi, je suis amoureux de la Bretagne. Hein.
Mais je sais bien.
Et parlez-nous-en de votre Bretagne, alors.
Ah ben, je commencerai par « Ils ont des chapeurs, en vive la Bretagne. Ils ont des chapeurs, en vive les Bretons. » Bon, je ne vous ferai pas tous les paragraphes parce que je ne les sais plus. Ben, la Bretagne, je l'ai quittée hier matin, niveau zéro. C'est l'océan Atlantique. Alors moi, je suis Bretagne Sud. Et c'est vrai que on est à niveau zéro, hein. La mer c'est niveau zéro. Puis quand on arrive dans le Valais, qu'on voit toutes les montagnes, les neiges éternelles, c'est un dépaysement total. Maintenant la Bretagne, il a fait très chaud ces dernières semaines. Donc nous on est des chanceux, on peut finir le travail et enfiler un maillot de bain.
Ça,
ou pas.
C'est pas mal.
Et aller à la plage, se baigner. Bon, après, on est, vous avez aussi tout ce qui est crustacés, fruits de mer. On est des chanceux. Bien sûr, je pourrais rajouter les crêpes, les galettes, le cidre, le chouchen. On a plein. Alors, vous avez la fondue moitié-moitié, dont j'ai hâte de m'en refaire une bonne à Gruyère.
On est d'accord.
Mais voilà, la Bretagne, la Bretagne vous gagne.
Et en fait, vous venez donc du sud de la Bretagne, mais décrivez-nous votre région.
Alors, le sud de la Bretagne. Donc, si on part de tout ce qui est la pointe de Pinmar, c'est... Bon, on a des falaises et on a des plages. On peut aussi bien se balader à la pointe du Raz et être à 300 mètres, enfin j'en sais rien en fait, mais assez haut au-dessus de l'océan, comme on peut se balader et c'est vraiment des longues plages comme la Baule, comme Erdeven, où c'est vraiment des longs kilomètres de plage.
Il s'appelle comment déjà le sentier des
douaniers,
Oui. Et là, on peut traverser toute la Bretagne. Hein,
le GR34.
Le GR34.
Alors, c'est pas traverser, c'est faire tout le tour.
Ouais.
Oui, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai fait qu'en partie.
Ah, voilà.
Oui, je suis une grande marcheuse, n'est-ce pas?
Oui.
Je préfère nager.
Et sinon, vous avez aussi le site de Carnac.
Oui, alors ça, les mégalithes et les alignements de Carnac qui sont reconnus et classés à l'UNESCO de mémoire. Et surtout, c'est un très grand lieu énergétique. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu les druides, les dolmens, la forêt de Brocéliande. Voilà, nous avons énormément de contes et légendes.
Il y a une bretonne d'origine, on va dire, à l'époque aussi. Là, je la vois envie de réagir et tout. Donc, parlez-nous aussi, Christelle, de votre région nantaise.
Écoutez, moi, je viens de Saint-Nazaire, où ils fabriquent les bateaux de croisière, MSC Croisière. Maintenant, c'est MSC Croisière, mais à l'époque, c'était pas MSC Croisière. Donc, je viens de Saint-Nazaire. C'est un port chantier naval. C'est quoi ton prénom? Anna? Anne disait la Baule. La Baule, en fait, on part de Pornichet, on va jusqu'à la pointe du Pouliguen, et il y a 8 kilomètres. Et c'est du sable fin, et c'est magique, et il y a toute la côte sauvage du Pouliguen, justement, à faire à pied, il y a comme disait Anne, le chemin des douaniers, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Alors quand il y a des tempêtes en Valais, ça dépote, mais quand il y a des tempêtes en Bretagne, c'est 160 km/h. 180, et en 1987-86, j'étais dans une voiture et j'étais soulevée du sol avec la voiture. Les feux de signalisation allaient dans tous les sens, les abribus explosaient, on était sur le Remblai et on voyait cet océan Atlantique qui était déchaîné. C'est magnifique, c'est puissant, c'est fort. Et je suis allée du côté de Saint-Brieuc aussi vivre une tempête parce que je voulais voir ce que ça faisait, quoi. Et c'est... Au niveau vibratoire, c'est très impressionnant.
Ah, je vois que vous avez les mêmes termes, hein, niveau de la vibration, niveau des énergies. Moi, je me souviens, petite anecdote, les îles d'Ouessant, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà visité. Oui, alors Étienne, vous voulez réagir?
Sur Ouessant, alors, moi, je ne suis jamais allé, mais il y a un film que j'adore, ça s'appelle L'Équipier. L'Équipier, c'est intéressant, parce que c'est un gars, il vient du continent, et puis il a un peu de la peine à s'intégrer avec les gens de l'île.
Ouais. Voilà. Anne veut réagir. Oui.
Oui, parce que c'est vrai que les Ouessantins, je ne sais même plus, mais les Iliens, de manière générale... Ils ont un temps d'adaptation pour faire confiance, mais une fois qu'ils nous ont accueillis dans leur île, c'est à vie.
Ça ressemble un petit peu aux Valaisans, il me semble.
Oui, c'est pas pour rien qu'on s'entend bien.
Voilà.
C'est pas pour rien qu'on s'entend bien.
Oui, Étienne.
Ça me fait penser un peu à l'Écosse.
Ouais.
Aussi.
Oui.
Ouais, parce que le problème, c'est que quand je vais une fois là-bas, de revenir, parce qu'on s'y sent tellement bien.
Et est-ce que vous avez des montagnes ou une chaîne de montagnes en Bretagne?
Alors, le massif armoricain est vraiment trop séculaire pour qu'on en ait des grosses traces. Mais nous avons un petit Mont-Saint-Michel de Brasparts à 400 mètres d'altitude. À 400 mètres. Alors, on a quand même une petite montagne de 400 mètres.
Et elle a quoi comme particularité, cette montagne?
Eh ben, elle s'est fait brûler l'année dernière, mais elle a une chapelle juste en haut.
Et il y a aussi un site archéologique celte, non?
Oh, alors Elvio, tu en sais plus que moi. C'était un lieu de druides, hein. Il y a eu des sacrifices.
Voilà.
Mais alors ça, exactement quand est-ce que c'était sacrificiel, je sais pas. Par contre, depuis, excuse-moi, depuis l'incendie, c'est un artiste qui a refait l'hôtel. Donc, la petite chapelle de Saint-Michel, qui était très typique, est devenue un lieu vraiment plus officiel de pèlerinage breton.
D'accord. J'ai Christelle là qui...
Je voulais parler aussi de... Il y a beaucoup de musées sur la Seconde Guerre mondiale 39-45 qui sont très sympas à visiter pour les personnes qui sont intéressées bien sûr par ce genre de sujet. À Bas-sur-Mer, il y en a un très chouette, Bats-sur-Mer. Et il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à manger qui sont délicieuses, comme disait tout à l'heure les fruits de mer... moules frites. Et puis bon, nous avons aussi la chance d'avoir beaucoup d'iode qui aide beaucoup aussi au niveau des soins. Voilà.
Il y a Mia. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Mia?
Ben, est-ce que sur votre petite montagne, vous pouvez skier ou pas?
Non, alors déjà, il n'y a jamais de neige. Moi, avant de venir en Suisse, en 97, je n'avais vu la neige que deux fois. J'avais 10 et 11 ans. C'est très, très rare. Parfois, un petit peu de verglas. Mais comme on est près de la mer, on a très, très peu de neige. Donc, on ne skie pas, il n'y a pas de luge, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Il faut venir dans le Valais.
Voilà. Et parlez-nous un petit peu de la faune, la flore de chez vous. En tout cas, aquatique. Question piège.
Bah oui, oui, oui. Bah on a des forêts hein, comme chez vous, des conifères, des sapins. Alors là, c'est moins ma tasse de thé. Maintenant, dans la faune aquatique, et ben c'est. Alors vous trouverez pas de filet de perche, hein, puisque nous c'est l'océan Atlantique, c'est salé. Donc ça va être tout ce qui est poisson de mer. Je m'en pose des questions. Des araignées, des crabes, des dormeurs, des crevettes, des bigorneaux, de la palourde, des ourmeaux, des langoustines, du homard.
Vous me donnez faim là,
c'est terrible. Avec une bonne. Mais surtout avec... accompagné de beurre salé. Voilà. Ah. Voilà, c'est pour ça que c'est si bon chez nous.
Donc voilà, et les spécialités donc.
Ah bah c'est la galette et la crêpe hein, quand même. Hein. Ouais. Après, ouais. Bon, moi je suis plus Finistère Sud. Dans le Finistère Nord, vous avez le kika farce, qui est de la semoule de sarrasin avec du chou, du lard. C'est vrai qu'en Bretagne, il vaut mieux aimer le cochon. Hein, on est très très bon aussi sur le cochon, la charcuterie, le pâté énaf.
Le fameux pâté énaf. Hein. C'est votre parfait en fait.
Ah oui, oui, c'est notre qui s'exporte, hein, ah ouais, qui s'exporte en plus. Et non mais ça s'invente pas. Hein, le musée est à Pouldreuzic.
Ah ouais, ok.
Pouldreuzic, ça s'invente pas. Sinon, faut venir.
Christelle, vous êtes juste un poil plus bas. En fait, Nantes avant, c'était la capitale économique de la Bretagne. Et au niveau des spécialités, c'est aussi un peu pareil.
Alors moi, tu parlais tout à l'heure de faune, flore, etc. Et de lieux à visiter. Je vous conseille la Grande Brière à Saint-Joachin, Saint-Lifard. C'est des canaux à pu en finir, d'eau douce, boueuse. C'est là-dedans que j'ai appris à nager. Mon père me jetait du bateau.
Okay.
On va sur des chalands qui sont des bateaux en bois tout plat. Et tous les animaux sont en liberté, vaches, chevaux, oies, etc. Et ils les transportent par bateau d'un point A à un point B. Ils les transportent par bétaillère sur bateau. Et je vous conseille vraiment le village aussi à visiter de Quérinet, qui est un village typique tout en pierre et en toit de chaume.
Eliane.
Oui, je me posais la question, mesdames. Y a-t-il des lacs en Bretagne?
Alors oui, mais on triche un peu, il est artificiel. Il y a le lac de Guerlédan qui fournit de l'électricité pour la Bretagne, qui a permis d'avoir des bases nautiques en plein cœur de la Bretagne. C'est entre Saint-Brieuc et Lorient. Voilà, si on prend Saint-Brieuc, c'est Bretagne Nord, Lorient, Bretagne Sud. Entre les deux, il y a le lac de Guerlédan qui a été asséché il y a quelques années, mais c'est le seul grand lac.
On parle souvent des fameuses Bigoudens, en fait. Mais les Bigoudens, c'est une région de Bretagne ou c'est toute la Bretagne?
Alors non, c'est le pays Bigoudin. Donc le pays Bigoudin... Alors il faut imaginer la Bretagne comme si on divisait la Bretagne en différents cantons. Donc vous avez le pays Vannetais, le pays Bigoudin, la Cornouaille. Et le pays Bigoudin va de la Laïta jusqu'à Quimper. Alors ça vous parle peut-être pas trop, mais ça s'étend sur... Et en plus, mon ami me dit que non. Gilles, je vous en prie.
Après Quimper, sur la côte.
c'est après Quimper sur la côte. Je suis désolée, j'ai pas été bonne à l'école. Mais voilà, c'est pas tout de la Bretagne. La Bigouden, c'est vraiment un pays de Bretagne Sud.
Très bien, je vous remercie. Alors, Evan, qu'est-ce que tu veux poser comme question ?
J'ai juste... Est-ce que la Bretagne, c'est grand ?
Alors, je vous laisserai répondre. Est-ce que la Bretagne, c'est grand ? Donc, apparemment, personne ne saurait... Oui, c'est grand ? Je vous passe le micro parce qu'on ne vous entend pas bien.
Sincèrement, je n'ai pas regardé le mètre, le combien de kilomètres carrés la Bretagne fait. Maintenant, comme ça, je dirais au moins la taille de la Suisse. J'ai envie de dire, ouais, au moins. Mais sincèrement, mon baccalauréat date un petit peu, je suis navrée.
Et au niveau... Ah, il y a encore Evan qui veut poser une question. Vas-y, bonhomme.
Mais... Au niveau sport, vous faites quoi ?
Alors, il y a tous les sports, comme on peut voir au collège, le hand, le basket, tous les sports sont représentés. Maintenant, grâce à l'océan, il y a du surf, il y a du skyboat, il y a de la natation, il y a tous les sports que tu peux retrouver autour des lacs ici. Hein. C'est les mêmes. Hein. C'est, quand tu vois un port en Bretagne, ça ressemble à un port au Léman. Kif, kif, bourricot. Donc, il y a les mêmes sports.
Et j'ai ouï dire, comme ici nous avons le Paléo, nous avons le Montreux Jazz. Il y a quoi comme festival en Bretagne ?
Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, alors celui de ma ville, le festival interceltique, hein, qui est la première quinzaine d'août, où l'Orient reçoit tous les pays celtiques de l'Europe. Donc ça vous donne une ambiance dans la ville assez impressionnante. Il y a aussi celui de Quimper, le festival de Cornouailles, qui est bien connu. Et par contre, je suis obligée de parler de celui de Carhaix, les vieilles charrues, qui ressemblent vraiment, pour ceux qui connaissent le paléo, on a notre paléo à nous, mais ça s'appelle les vieilles charrues. Voilà, ça dure 4 jours.
Evan ?
Attends, qu'est-ce que je voulais dire ?
Vous voulez parler de la musique ? Et comme instrument traditionnel en Bretagne, qu'est-ce qu'on trouve ?
Le biniou !
Ah, et le biniou, donc, c'est...
Une flûte. Écoute, j'en ai jamais joué du biniou.
Et de la cornemuse.
Et de la cornemuse.
Mais la bombarde.
Alors, c'est un petit biniou.
Ah.
C'est un mini biniou.
Evan a retrouvé sa question.
Quelle langue vous parlez en Bretagne ?
Alors, il y a le breton. Maintenant, je n'ai pas la chance de le parler. Alors, je peux te dire Kenavo, ça veut dire au revoir. Je vais te dire, je ne sais pas beaucoup de breton, j'en ai fait pendant une année. Oui, on avait notre propre langue. Et il y a plusieurs décennies en arrière, l'État français a voulu que les Français parlent tous français. Donc moi, mon grand-père, par exemple, se faisait taper sur la main quand il parlait breton. Il s'était interdit.
Mia ?
Est-ce que vous avez déjà vu une anguille ?
Non, je n'ai jamais vu d'anguille.
Et une murène ?
Non plus.
Christelle, vous voulez réagir ?
Alors moi, j'allais dans les marais de Brière, tous les mercredis, à l'âge de 7-8 ans, pêcher les anguilles, on appelle ça aussi des pimpenots, et du poisson-chat. Et il y a la nuit, les pêcheurs allaient pêcher la civelle. C'est les bébés des anguilles, ce qui est interdit. Hein. Enfin, ce qui a été interdit. Parce que à l'époque, je ne pense pas que c'était autorisé non plus. Mais avec des grands filets, ils pêchaient la civelle. Les civelles, c'est comme des petits, des tout petits poissons blancs, tout fins. Ça se mange avec de la vinaigrette et c'est délicieux.
On se réjouit de goûter. Étienne, vous vouliez réagir à quelque chose tout à l'heure, non ?
Non, pas trop.
Ah, j'ai cru alors.
Je rêve de retourner là-bas. J'étais souvent en vacances dans le nord de l'Allemagne. En France, j'étais surtout dans le sud, mais je préfère le nord. Mmh. Voilà.
Ah, il y a du cachet dans le nord. Hein. Il y a des jolies filles aussi.
Ouais, surtout. Et puis les gens sympas.
Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. On va écouter un morceau de Chi. Alors écoutez, c'est japonais, donc Shishio Kazuya Yoshi.
ぎたこと忘れられないけどねきっと光がある続くどこまでもこの広い大地アポ本当か嘘か今でも迷うけどこの広い空が
Voilà, c'était Shishio de Kazuya Yoshi. Alors maintenant, j'aimerais juste qu'on fasse, qu'on conclue avec les mots de la fin. Donc, vous êtes là pour combien de temps ? En vacances, Anne ?
Eh ben, on repartira vendredi de la semaine prochaine, dernier délai, sinon jeudi.
Et vous avez prévu de visiter quoi dans notre chère région ?
Ah ben, je vais ramener mon chéri à Gruyère. Je vais l'amener donc au petit village où j'ai vécu longtemps, à Branle, qui est le dernier village du canton de Vaud avant Civirier. Donc on va se faire la chaîne des Alpes. Après, j'aimerais bien le ramener à Lauquerbade, hein, où j'avais vraiment kiffé ces bains là. Après, j'aurais pas le temps de l'amener donc voir votre montagne emblématique dont j'ai oublié le nom.
Le Cervin.
Mais voilà, et puis bah, surtout passer du temps avec mes amis.
Bah oui,
bah voilà.
On s'en réjouit.
Qui va nous cuisiner de bonnes fondues.
Quand il ne fera pas trop 30 degrés. Christelle, alors moi je vous souhaite une bonne fin de journée.
Bah, merci à vous tous, merci à vous tous d'avoir participé. Merci pour ce moment de partage et d'échange qui était vraiment très 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 agréable. Merci.
Merci Eliane aussi. On vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir Étienne.
Au revoir.
Tout bon.
Si jamais pour vous détendre aussi, il y a les bains de la veille, les bains nocturnes. Les bains de la veille.
Merci aussi à Patricia. Merci beaucoup à Evan et Mia. Vous voulez dire un mot de la fin, les enfants ?
Au revoir.
Au revoir, et Mia.
Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Voilà. Ouais, merci de nous avoir reçus, c'est gentil.
Ah, c'était voilà. Un vrai plaisir, on a passé un bon moment. Alors maintenant, on va se quitter avec C'est beau la vie, parce que c'est beau la vie de Jean Ferrat. Moi, je vous dis à bientôt. On se réjouit de vous revoir, de vous rentendre. La semaine prochaine, nous serons à la Maison Blanche. En fait, il y a une manifestation qui va se passer à Monté et on aura de nouveaux invités. On remercie aussi Pascal à la technique et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout. Que c'est beau. C'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter et surtout pouvoir chanter. Que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau.